Votre revue de presse, Olivia Ferrandi, bonjour.
Bonjour.
Avec tout d'abord les gueules noires d'un autre continent.
Portrait d'Alejandro, d'Alirio, d'Emmanuel à découvrir dans Courrier International aujourd'hui. Alors ils ne sont pas mineurs de fond, ce sont les pêcheurs du lac de Maracaibo dont le visage est noirci par le pétrole. Maracaibo est une ville de 3,5 millions d'habitants, c'est surtout la première région pétrolière du Venezuela, là où les premiers gisements d'or noir ont été découverts il y a un siècle. Une bénédiction à l'époque, un fléau aujourd'hui, souligne l'hebdomadaire, car faute d'entretien, les installations de la compagnie publique laissent s'échapper des milliers de litres de pétrole, créant ainsi une marée noire permanente, selon les mots du photographe Rodrigo Apt. Et le reporter évoque aussi l'odeur du pétrole qui, dit-il, infeste jusqu'à l'intérieur des maisons des pêcheurs, car les hommes n'ont pas d'autre choix pour survivre que de pêcher dans ce lac. Sur l'une des 10 photos publiées cette semaine, on perçoit la masse visqueuse et miroitante qui semble avoir remplacé l'eau du lac, on pourrait presque la toucher. Les hommes fixent l'objectif, la tête haute, mais le regard fatigué. Des gueules noires du 21e siècle, captées par une chambre photographique en bois que Rodrigo Apt s'applique à utiliser, comme les photographes de rue qu'il a vus en 2006 à Kaboul, en Afghanistan. Un procédé lent, hérité du 19e, et qui suppose de longues minutes partagées avec ses pêcheurs dans un pays où la crise économique a supplanté toute préoccupation environnementale.
De son côté, le Monde Afrique nous apprend que le Sénégal vient de lancer l'opération Cleaning Days.
Oui, sur le modèle mis en place au Rwanda, le président Macky Sall incite vivement les citoyens à ramasser tous les samedis les déchets devant les maisons, dans les villes, sur les plages. L'objectif est de donner l'image d'un nouveau Sénégal plus propre, martèle le chef de l'État. Dans un pays où, faute de moyens, il n'y a pas assez de déchetteries ni de camions poubelles, les détracteurs de Macky Sall réclament une vraie politique publique sanitaire. Le président leur répond priorité à l'évolution des mentalités.
Dans les journaux ce matin également, les relations qu'entretiennent les hôpitaux et les laboratoires pharmaceutiques.
Du Républicain Lorrain à la Voix du Nord, en passant par le bien public, les DNA ou encore le Parisien, tous s'interrogent aujourd'hui sur ces liaisons dangereuses. Ce titre claque d'ailleurs à la une de plusieurs quotidiens régionaux. Alors sont-elles dangereuses ces liaisons entre l'hôpital public et les laboratoires privés? Un collectif a passé au scanner la plateforme Transparence Santé. Vous savez, c'est cette base de données créée en 2011 et qui recense toutes les sommes de plus de 10 euros perçues par les praticiens. Verdict, plus de 170 millions d'euros ont été versés par les laboratoires en 2018 pour améliorer les repas et le confort des chambres d'hôpital, mais aussi et surtout pour financer la recherche et la formation des médecins. Ainsi, cet orthopédiste de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a perçu plus de 400 000 euros en 2018, c'était des royalties liées à des brevets sur la mise en place de prothèses, se justifie-t-il, en expliquant que sa technique a eu un succès mondial, ce qui a permis au laboratoire d'afficher une croissance de 30%. Le laboratoire le paye aussi pour qu'il enseigne cette technique aux jeunes chirurgiens. Le Parisien souligne alors l'absence de la puissance publique dans le financement de la formation de haut niveau. Nous ne sommes certainement pas les porte-voix de tel ou tel industriel, se défend pour sa part un hématologue de l'hôpital Tenon. Mais la pneumologue Irène Frachon, interrogée également dans cet article, estime que quoi qu'on fasse, ces pratiques biaisent le rapport des médecins avec les produits promus par ces industriels.
La réforme des retraites se décline à nouveau dans nos journaux ce samedi, avant les nouvelles manifestations du jour.
C'est par où la sortie ? S'interroge Midi Libre en une. La grève fait dérailler la gare, ironise la Nouvelle République des Pyrénées, alors que les cafés, les hôtels situés en face de la gare de Tarbes ne font plus recette faute de trains régionaux. Dans Le Parisien, vous apprendrez que les cheminots grévistes utilisent des pétards pour perturber la circulation des trains. Habituellement, les pétards servent à prévenir le conducteur d'un danger sur les voies. La détonation provoque l'arrêt du train, avec souvent une heure de retard à la clé. Les Hauts-de-France sont devenus un terrain de jeu, déplorent aujourd'hui les usagers des lignes Paris-Compiègne et Paris-Amiens. De son côté, Libération a repéré dans le projet de loi un âge pivot qui peut en cacher un autre. C'est le titre légèrement ironique. Un double système d'âge pivot, en fait, dont l'un serait négociable. C'est celui qui vise à rétablir dès 2022 l'équilibre des comptes de l'assurance vieillesse. Le second doit assurer le financement du nouveau système de retraite sur le long terme. Et celui-là, pas question de le négocier.
Allez, on referme cette revue de presse avec le début d'une chasse au trésor. Et ça va particulièrement intéresser Anna Sigalevitch.
Et le trésor en question, Eric, concerne Maurice Ravel. Ce sont ses archives personnelles.
Vous connaissez Maurice Ravel,
Anna? Ça me dit quelque chose.
24 manuscrits, dont ceux de la Merloy et du concerto pour la main gauche, plus une cinquantaine de manuscrits inachevés liés au boléro ou encore à l'heure espagnole. Au total, 1300 pages jaunies, rédigées d'une écriture fine et serrée, précise le Figaro, qui a réussi à mettre la main sur ces archives présentées dans le catalogue d'une prochaine vente aux enchères. Une vente Très discrète, Eric, hein, orchestrée par une maison de Londres qui a envoyé ce catalogue à quelques riches collectionneurs. Aucun prix affiché, à charge pour les destinataires du catalogue de montrer leur intérêt, explique Le Quotidien. Sauf qu'en fait, on ignore où se trouvent ces manuscrits, qui en sont les actuels propriétaires et surtout à qui appartient l'héritage de Maurice Ravel. Car un bras de fer se joue depuis 1960 entre l'État français et les héritiers du compositeur, parmi lesquels ses anciens domestiques. Aujourd'hui, un petit groupe de hauts fonctionnaires est déterminé à récupérer les manuscrits pour le compte de l'État, quitte à les déclarer trésor national. Leur enquête ne fait que commencer, conclut Le Figaro.
J'ai compris qu'on ne prêtait qu'aux riches, également en musique classique. C'était la revue de presse d'Olivia Ferrandi. Merci Olivia. Et à demain.